RDY et Radio Saint-Férol présentent Regards croisés pour la transition des territoires. Épisode 3, ici et là-bas, la biodiversité menacée. Une réalisation RDY avec l'ensemble des jeunes du projet Drôme Sénégal.
Deux groupes de jeunes, l'un de la vallée de la Drôme en France, l'autre de la région de Rao au Sénégal, échangent sur leurs territoires ruraux et sur la transition écologique. Une dynamique interculturelle pour ouvrir leur regard sur le monde et stimuler leur envie d'agir. Ils sont partis en exploration de quatre thèmes pour comprendre les enjeux, sensibiliser les habitantes et habitants de leur territoire et choisir des actions à mener ensemble, ici et là-bas. Le reportage sur ce projet comprendra quatre épisodes. Le premier sur l'eau, le deuxième sur les déchets, le troisième sur la biodiversité et enfin le quatrième sur l'apiculture.
La thématique de la biodiversité. Aujourd'hui, mes frères.
Je sais pas trop.
Aujourd'hui. Play mon micro.
Allô?
Allô?
Ah, si. Voilà.
Ça va, tout va bien.
Ça marche.
Du coup, c'est Mallory. Je vous appelle un peu avant les 5 minutes données, hein, mais on avait juste un petit problème technique. C'est réparé.
Ok.
Grégory Lemoine, botaniste, loin dans la montagne, par téléphone un jour de juillet 2020.
Je suis avec Clémentine, c'est une autre jeune qui travaille avec moi sur le projet Escape Game.
Bien le bonjour.
Allez, donc on fait une petite présentation. Donc, vous êtes donc Grégory Lemoine. Et du coup, vous avez donc des connaissances où vous pouvez en tout cas nous parler de la thématique de la biodiversité.
Oui, moi je suis en fait plus précisément, je suis botaniste, donc je m'intéresse surtout aux plantes sauvages.
Quelques jours plus tôt, en balade militante dans la plaine de Chamarges, tout à côté de Die, Drôme, France Planète Terre.
Et en fait, la présence d'une diversité floristique, ça réduit considérablement le nombre de prédateurs, de parasites, de pathogènes qui peuvent être affectés, qui peuvent affecter les cultures de céréales. Donc ça, c'est bien prouvé. Ils vont abriter un insecte, enfin, ils vont nourrir un insecte qui sera prédateur d'un autre insecte qui va potentiellement manger les épis de blé, par exemple. Donc ça, c'est assez connu. Et on a remarqué aussi, ça c'est une donnée intéressante, c'est qu'en fait le blé lève mieux et pousse mieux s'il est en présence notamment du coquelicot et aussi du miroir de Vénus que tu as cité. Donc il y a vraiment des essais hyper avec des protocoles hyper scientifiques et donc du coup on voit vraiment qu'elles ont grandi ensemble et qu'elles sont habituées. Donc vraiment voilà, c'est pour étayer encore l'idée que quelques fleurs dans les champs de céréales ça fait pas de mal et en plus ça fait du bien même pour les céréales. Une espèce comme le coquelicot, c'est vraiment un cas d'école pour dire, donc le coquelicot, tout le monde trouve ça plutôt beau, plutôt chouette et plutôt sauvage et naturel. Et en fait, quand on retrace l'histoire du coquelicot, on s'aperçoit que c'est pas le cas. En fait, le coquelicot, justement, il est arrivé avec l'importation des céréales du Proche-Orient. Ces graines, comme elles ont le même cycle biologique que les céréales, en fait, ont été introduites fortuitement et il n'y avait pas de coquelicot avant l'apparition de l'agriculture en Europe. Donc voilà. Donc après, dans le sauvage naturel, il y a aussi des gradients à mettre, même si du coup, ça fait des milliers d'années qu'il est là, il n'était pas forcément présent. Et je trouve que les plantes messicoles, c'est passionnant au niveau ethnologique de se rendre compte qu'elles sont témoins d'une longue histoire de l'agriculture et qu'une bonne partie nous viennent de Proche-Orient, du Moyen-Orient, même des fois de plus loin, et sont arrivées en Europe petit à petit comme ça. Voie de régression à l'échelle nationale, qui était de faire pâturer aussi dans les champs de céréales, justement entre l'époque de la récolte et l'époque du semis, et qui évitait justement les amendements type chimique, NPK, etc., où c'était la fumure, principalement ovine, des moutons, qui venait nourrir la terre. Et la complémentarité entre les champs de céréales et l'élevage, elle existe encore un peu, et elle existe dans d'autres pays, mais voilà, plus on est complémentaire et plus on est gagnant. Il y a une pratique aussi qui se fait encore dans des pays comme le Mexique, dans des pays comme le Maroc. C'est au moment du printemps, au moment où le blé n'est pas encore très grand, toutes ces adventices, toutes ces messicoles qui vont pousser, il y en a pas mal qui se mangent. Là, à côté de nous, on a du salsifis sauvage. On a quantité de plantes, voilà, qui se mangent, je ne vais pas les citer tous, voilà. Donc qui est plus en fleurs, mais voilà, qui est là. Et donc les pratiques populaires, les pratiques paysannes, eh ben, sans endommager du tout le champ de céréales, passer au printemps et glaner dedans des plantes pour se nourrir. Et voilà, c'est tout un ensemble de pratiques qui étaient en interdépendance. Et voilà, c'est une histoire fabuleuse, je trouve, personnellement.
Alors la Drôme, elle est riche en espèces, elle est riche en biodiversité, puisqu'il y a des territoires de montagne, comme le Vercors, des territoires méditerranéens, comme les Baronnies, plus toutes les plaines, Vallée du Rhône, Romans et compagnie. Donc en fait, il y a vraiment une diversité d'altitudes, de milieux, de climat qui crée du coup une diversité végétale et animale. La Drôme, effectivement, par sa position au niveau biogéographique, est très riche en espèces, une grande biodiversité.
Bon bah merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.
Ben, merci à vous.
Bonne journée.
Et bonne suite dans votre projet, oui.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Thank you.
Gilbert David, ornithologue, en interview par visioconférence durant la période de confinement, avril 2020.
La LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, aide la biodiversité, parce qu'il n'y a pas que les oiseaux, mais on a tout ce qu'il y a autour des oiseaux, et donc les écosystèmes, les biotopes, et puis toute la faune qui va avec, en fait. Hein. Donc tout ce qui est faune sauvage nous intéresse à la LPO. Voilà, donc je peux me présenter, je suis Gilbert David, j'ai été président de la LPO Drôme pendant plus d'une vingtaine d'années. Voilà, donc maintenant je suis vice-président parce que c'est Drôme Ardèche et puis je voulais me retirer un peu, je vieillis. Voilà, donc je préfère me recentrer un peu sur justement sur le DIWOC que j'habite depuis 45 ans. Voilà. Donc nos actions sont surtout pour une protection, enfin pour une étude, une connaissance plus approfondie de la faune sauvage, en particulier des oiseaux bien sûr, mais aussi des mammifères, des reptiles amphibiens et aussi des insectes comme les papillons et les libellules. C'est justement cette diversité biologique qui est assez importante à étudier et à connaître et à sauvegarder, car c'est grâce à cette biodiversité qu'on peut avoir pas mal d'actions qui se font où la nature peut être résiliente. Voilà, c'est cette résilience qui est importante, surtout en ce moment hein, d'ailleurs, et qui peut être capital pour l'avenir. Voilà.
Je fais des relevés ornitho depuis 15 ans sur ce site-là.
Gilbert David, toujours sur la plaine de Chamarges,
et j'ai 10 points d'écoute sur 10 là, donc qui représentent à peu près tous les biotopes que l'on peut avoir sur 10, que ce soit le centre-ville, un peu de forêt, un peu de haies, un peu de la Drôme, et ici donc c'est un point qui représente les champs, ce que vous voyez là quoi. Et ici sur j'ai pas fait le calcul exact, mais je pourrais le faire, il y a au moins une trentaine d'espèces différentes que j'ai notées depuis donc 15 ans, et dont des espèces migratrices, et qui c'est une des haltes migratoires du Diois. Hein. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, 1 mois, il y avait une cigogne qui s'était posée sur le tas de fumier là. Et elle cherchait des vers dans ce tas de fumier. C'était donc une halte assez régénératrice pour elle avant de remonter plus loin. Et j'espère qu'un jour elle nichera par ici, parce qu'elle a déjà niché dans le passé, elle pourrait renicher quoi. On a d'ailleurs, la LPO a installé des mâts avec des plateformes pour essayer de l'attirer et de lui dire que c'était bien sympathique chez nous, hein, dans la Drôme. Mais c'est plutôt dans la plaine de Valence, parce que c'est quand même plus par là-bas qu'on pense qu'elle va s'installer. Mais c'est pas impossible. Ici, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, un peu plus, il y a 7 cigognes qui se sont fait électrocuter par des fils à haute tension, à moyenne tension, je veux dire, juste à Pont-de-Car, là, donc c'est à côté. Voilà, il y a déjà pas mal de choses qui sont assez perturbantes pour la vie faune, pour la faune aussi d'ailleurs. Et sans rajouter en plus en bétonisant un peu tout ce coin-là quoi. Ici c'est à peu près un des rares coins où on peut entendre vraiment l'alouette des champs, l'alouette Lulu, hein, les deux alouettes d'ailleurs, mais il y a aussi le tarier-pâtre, des espèces de plein champ. Et là dernièrement j'ai vu aussi le faucon cobèze, qui est un faucon qui est migrateur et qu'on voit qu'au printemps. Et c'est la première fois que je le vois dans le Diois. Voilà. Donc ça, c'est des coins qui sont intéressants parce qu'il y a des insectes et il y a aussi des graines. Donc c'est aussi bon pour les espèces granivores qu'insectivores, évidemment. Donc ça, c'est l'intérêt de ces coins qui sont... pas très rare dans le Diois, mais si on continue à urbaniser à tout va, ils vont devenir de plus en plus rares, quoi.
Oui, il y avait aussi l'impact du réchauffement qu'on a. Alors là, l'impact est très large, hein. Il y a des espèces qui disparaissent, comme je vous ai déjà dit, au point de vue forestier, mais du coup, il y a toutes les espèces qui sont inféodées à ces milieux-là qui vont disparaître. Par contre, il y en a d'autres qui vont progresser. Alors, y a une espèce qui a défrayé un peu la chronique depuis pas mal de temps, là. C'est le processionnaire du pin. C'est un papillon nocturne qui a une chenille qui mange les aiguilles des pins. Et donc là, elle était avant cantonnée dans le sud de la France, dans la zone méditerranéenne. Et grâce ou à cause du réchauffement, elle a favorisé. Et maintenant, on a comptabilisé sa progression, et depuis une cinquantaine d'années, donc toujours, même plus, hein, voilà, mettons une cinquantaine ou soixantaine d'années, la progression vers le nord ne fait qu'augmenter pour cette chenille. Maintenant, avant, on la trouvait que dans la région méditerranéenne, après dans la région Rhône-Alpes, après dans le sud de la France, plus au nord, et maintenant on arrive à la trouver jusqu'à Bruxelles. Voilà. On a trouvé des chenilles processionnaires jusque dans la ville de Bruxelles. Donc voilà, c'est une progression très favorable pour la processionnaire, or qui est une chenille qui se développe très très rapidement, mais qui est cyclique. donc qui n'est pas complètement dangereuse pour les pins, hein, mais qui peuvent faire ralentir sa croissance, en tout cas. Et par contre, les espèces qui mangent ces chenilles, du coup, elles se développent. Le pic noir, par exemple, la huppe, il y a beaucoup d'espèces qui se sont adaptées, les mésanges charbonnières, les mésanges bleus, tout ça, qui se sont un peu développées grâce à cet apport de nourriture supplémentaire. Voilà. Et donc ça, c'est un des marqueurs de la progression de certaines espèces. Par contre, des espèces nordiques, donc comme le lagopède, le tétralyre, qui sont plutôt des reliques glaciaires, comme on appelle, sont en train de réduire. Mais c'est vrai que même si on les chassait plus, la disparition pourrait être moins rapide, mais peut-être inéluctable si on n'arrête pas le réchauffement climatique.
On peut chasser le lagopède alpin aussi ?
Pardon ?
Oui. Le lagopède alpin, on peut le chasser aussi ?
Alors, on ne le chasse pas dans la Drôme. Il est protégé dans la Drôme, mais par contre, dans l'Isère, donc dans le nord Vercors, par exemple, il est chassable. En Savoie, Haute-Savoie, il est chassable. Il est pas protégé, en tout cas. C'est pas une espèce protégée. Sauf dans la Drôme, on a réussi ça, quand même. On n'a pas toujours...
quelque chose que je comprends pas, comment ça se fait que le lagopède alpin le lagopède alpin soit protégé, le tétralyre non. Je comprends
oui,
pas
ben,
pourquoi.
Oui. Ben, bonne question, moi aussi je comprends pas. c'est comme ça, c'est parce que les chasseurs, il y avait des chasseurs de tétralyre qui étaient plus agressifs que les chasseurs de lagopède. par contre, c'était facile de le protéger d'un drôme parce qu'il n'y en a bientôt plus. Il y en a que quelques-uns. Donc, ils n'arrivaient plus à en tuer. Donc, ils ont dit, c'est pas la peine qu'on s'acharne là-dessus parce qu'il n'y en a plus, quoi, pratiquement dans la Drôme. Hein. Par contre, dans le Vercors Nord, il y en a encore un peu. On fait des comptages tous les ans, hein, tous les 2 ans. On alterne avec le tétralyre, justement. Et en relation avec le parc du Vercors, avec les gardes de la réserve, l'ALPO, font des comptages conjoints sur ces espèces-là tous les 2 ans en alternance, tétra et lagopède. Les migrations aussi sont perturbées par ce réchauffement. Hein, comme il y a certains migrateurs qui ne migrent plus, comme le rouge-queue noir. C'est un petit passereau, hein, on l'appelle des queues rousses aussi. Eux, pratiquement, avant, ils migraient à partir de octobre, novembre et qu'ils revenaient au mois de février, mars. Maintenant, on le voit toute l'année dans le Diois. Il y en a qui migrent encore, puis d'autres qui se sont dit, puisqu'il y a des insectes encore à manger l'hiver, on reste là. Ce sont les insectivores surtout. Hein. Par contre, il y a des espèces qui sont toujours migratrices, mais qui reviennent plus tôt et qui partent plus tard. Donc, ils s'adaptent un peu aussi à ce réchauffement. Un des impacts du réchauffement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les gelées printanières qui sont beaucoup plus fréquentes qu'avant. Il y en avait avant, mais maintenant, elles sont presque régulières chaque année. Les hivers doux aussi font que les insectes parasitent sur certains arbres, sur certains fruitiers, sur certaines plantes. Avant, avec le froid qui faisait, où il faisait des froids assez forts, disparaissait parce qu'il gelait, une bonne partie. Maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux à supporter l'hiver et à faire des ravages dans les cultures au printemps, par exemple. Donc, j'ai noté, hein, pour les forêts, c'est le scolyte. Donc, ce sont des petits insectes, hein, qui supportent maintenant le froid qui est moins fort. Donc, qui attaquent beaucoup plus les arbres. Je parle de la pyrale du buis aussi, que vous connaissez sans doute, qui attaque les buis. Alors ça, c'est une espèce introduite aussi, hein, qui venait de Chine, hein, mais qui peut se développer et qui se font plusieurs générations dans la même année et peuvent en faire une autre dans l'hiver quand il fait pas froid. Donc, ça multiplie encore ce parasite. Voilà. Bon, je pourrais parler aussi de la neige lourde qui casse les arbres. Avant, la neige qui tombait, elle était beaucoup plus froide, était moins chargée en eau liquide, et donc elle était plus légère.
Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime, elle est juste quand on y croit et quand on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit, embrasse la terre, elle t'aime, la vérité c'est ce qu'on croit, et la nature c'est toi-même. George Sand, 1804-1876.
Vous avez le chardon-marie qui est par là-bas, qui est une espèce en extension dans le Diois. Ça pique beaucoup.
Jean-Claude Rouchousse, naturaliste, plaine de Chamarges.
Dans les champs, vous avez le miroir de Vénus avec des jolies fleurs bleues. Et sur la cathédrale de Die, vous avez le nombril de Vénus qui était absent du Diois et qu'on vient de découvrir sur la cathédrale de Die, le nombril de Vénus. Donc, il y a une biodiversité assez importante. Alors, malheureusement, quand même, les espèces en voie de raréfaction, il faut quand même reconnaître que c'est par rapport aux années 1950-1960, un certain nombre d'espèces de papillons qui ont complètement disparu. Les grands sphinx, il y a encore des grands pans de nuit, il y a encore le sphinx tête de mort, mais il y a des espèces de papillons que l'on voyait et que l'on ne voit plus, et je pense que c'est quand même au moins en partie lié aux pesticides. Voilà.
Quelque part dans un champ de blé juste coupé. Planète Terre, planète Terre.
Auditeurs, auditrices de la vallée de la Drôme, les jeunes du projet Drôme Sénégal vous proposent de prolonger votre expérience sur la transition écologique de votre territoire et vous invitent à participer à un escape game grandeur nature qui se déroulera à Die le samedi 29 août. Un parcours piéton ponctué d'énigmes à résoudre en moins de 2 heures avant de profiter d'un repas sénégalais et d'un concert qui vous immergera dans la musique d'Afrique de l'Ouest. Nombre de places limitées, réservation conseillée. Rendez-vous sur le site internet de l'association LAFRAP, www.lafrap.org ou par téléphone au 06 20 17 01 44. 06 20 17 01 44.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Ici et là-bas, la biodiversité menacée. Un grand merci à l'ensemble des intervenants. Une réalisation Erdiwa avec l'ensemble des jeunes Drôme Sénégal. Un projet accompagné et animé par Moussa Diagne, Moudou Cizé et l'association La Frappe, Thierry Véclin et Karine Melzer. Avec le soutien de la Caisse des allocations familiales, la Direction de la cohésion sociale, le FONJEP ministère des Affaires étrangères, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction régionale des Affaires culturelles. Merci à vous, à bientôt. I'm not afraid to die.
90. Et Linda mène tous les 500 commandes. Maman Tara, c'est dans qui l'année. C'est une boujouba et djouba, maman digne. Ousmane Touré, c'est dans qui l'année.
Merci beaucoup.